verset 14, nous lisons ceci. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continuelle vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis, sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. » Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit « J'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. » Voilà tout ce que Dieu fait, deux fois, trois fois, avec l'homme, pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Voilà, donc c'est un passage du livre de Job. Tout ce passage est extrait de ce livre qui raconte ce que traversait cet homme. Dieu a permis que Job, qui était un homme juste et intègre, bien traverse des épreuves redoutables au niveau de sa famille, au niveau de ses biens, au niveau de sa santé. Et alors qu'il est alité, vous savez que ses amis vont le visiter, tentent de le consoler. En réalité, leurs paroles vont l'accuser plutôt qu'autre chose. Ils échouent à remplir cette mission. C'est là le dernier de ses amis, c'est Élihu, qui prend la parole et qui parle, qui va exprimer ce que nous avons lu. Élihu est le plus sensé des amis de Job. Je vous laisserai juger si ces paroles s'appliquent réellement à ce que Job traversait, Élihu. Et ne fait pas partie de ces trois hommes que Dieu va blâmer ouvertement, en leur disant qu'ils n'ont pas parlé avec droiture, comme l'a fait Job, son serviteur. Élihu est un petit peu à part. C'est après Élihu que Dieu va lui-même s'adresser à Job et lui parler. Alors, nous retiendrons, si vous le voulez, on va considérer plusieurs pensées dans tout ce passage, mais nous retiendrons ce que Élihu souligne lorsqu'il dit que Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Élihu, pour tenter de réconforter Job, lui rappelle cette vérité glorieuse que Dieu parle. Dieu parle, et il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu est un Dieu qui parle parce qu'il veut établir avec nous le contact, parce qu'il veut nous communiquer ses desseins, sa pensée, ses desseins bienveillants, il veut nous les communiquer et nous permettre d'y entrer. Et pour cela, il établit un contact avec nous par la parole. Alors, comment Dieu parle-t-il ? Je propose ce matin de réfléchir à quelques manières dont Dieu dispose, plusieurs manières dont Dieu se sert pour nous parler. Et la première, eh bien, on peut retenir que Dieu parle par la création. Dieu parle par la création. C'est souvent une pensée que nous développons lorsque nous rendons témoignage à des incroyants pour les encourager à croire, pour montrer que Dieu, dans tout ce qu'il a fait, nous parle de lui-même, sa bonté, sa divinité, sa puissance éternelle se voit comme à l'œil quand on les considère, dira Paul dans ses ouvrages. Mais c'est une vérité qui est aussi présente pour les croyants que nous sommes. Dieu nous parle aussi par la création. C'est un croyant, c'est l'auteur du psaume 19 qui dira, bien voilà, les cieux sont l'ouvrage de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de tes mains. Et puis, les cieux nous parlent, ils nous amènent à réfléchir aussi sur le plan de salut. Un croyant, quand il voit la création, bien ça lui parle du plan de salut que Dieu a mis en œuvre. C'est aussi un croyant, c'est l'auteur du psaume 8 qui dira « Quand je contemple les cieux que tu as créés, quand je contemple la lune, les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. » Et le psalmiste continue en disant « Bien, oui, la création me fait voir que Dieu prend soin de l'homme, malgré sa petitesse, quand je vois la grandeur de la création. » Et il dira, bien pourtant, Dieu a formé pour l'homme des projets glorieux. Il a tout mis sous ses pieds. Il lui a donné la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Voilà, la domination sur les bêtes des champs, les poissons de la mer, les oiseaux du ciel. Et pourtant, vous voyez, quand on réfléchit à toutes ces choses, quand la création, là, nous parle, nous confronte, on est amené aussi à se rendre compte que cette réalité que Dieu a tout mis sous les pieds de l'homme, bien, elle n'est pas réalisée comme elle le devrait. La grandeur de la création, parfois, nous émerveille et elle nous écrase à la fois. Hein. Je ne sais pas si ça vous fait ça. On s'aperçoit qu'il y a quelque chose là qui a... Le but a été manqué. La création nous parle de la majesté de Dieu et d'une certaine manière, eh bien ça crée un certain malaise dans la conscience de l'homme. C'est en Jésus-Christ. Vous voyez que ce problème du péché bien sera résolu. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dira, oui, pour l'instant nous ne voyons pas que toute chose soit soumise à l'homme. Vous voyez, même dans la nature, il y a des choses qui nous échappent, parfois des choses qui partent là de telle manière que l'homme en subit les conséquences. Dans la création animale, vous voyez, l'homme est parfois confronté à des événements qui le dépassent. Tenez, j'ai appris pendant ces congés que voilà, j'ai un oncle qui a été mordu par un chien chez lui. Rendez-vous compte, il était là dans son jardin et un chien a bondi par-dessus le mur de la maison et l'a mordu. Vous voyez ? Et c'est à cause de cela aussi que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira « Nous ne voyons pas que toutes choses lui sont soumises. » Mais il ajoutera « Pour celui, Jésus-Christ, hein, qui représente l'homme qui est venu nous représenter dans sa mort, dans sa résurrection, pour celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, nous, bien pour ce qui le concerne, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Il est glorieusement ressuscité des morts et il est parti nous préparer une place. Pour ceux qui croient en lui, les hommes et les femmes, qui, conscients de leur besoin de pardon, de réconciliation, confessent leurs péchés à Dieu, se confient dans le Seigneur, eh bien, ils ressuscitent avec le Seigneur, ils ressuscitent avec Christ. Et pour eux, pour l'Église de Christ, eh bien, c'est une destinée glorieuse. Vous voyez, le plan de Dieu pour l'homme s'accomplit en Jésus-Christ. Il s'accomplira parfaitement pour l'Église. Et c'est en Jésus-Christ seul. La création nous parle de ces choses. Et elle nous amène à rendre grâce à Dieu. Dieu parle par sa création. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Puis on s'aperçoit aussi que, si on réfléchit, Dieu nous parle par ses bénédictions. Il parle si souvent par ses bénédictions. Non pas que nous les méritions, mais parce que Dieu prend plaisir à bénir. Dieu est bon, c'est sa nature. Vous voyez, sa bénédiction nous enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin, écrira un homme de Dieu. Et il accorde ses bénédictions même à ceux qui ne les méritent pas. On peut penser à Jacob. Souvenez-vous de cet homme. Cet homme qui naturellement est un trompeur. Un homme qui, par sa conduite, par ses desseins, n'a rien fait pour mériter la bénédiction de Dieu. Il vient de tromper son père. À l'intérieur de la cellule familiale se manifestent des conflits. Son frère forme même le projet de se venger. Il pense même à le tuer. Et voilà que ses parents lui disent « Va-t'en, va-t'en, et tu ne prendras pas une fille par ici. Va-t'en, tu vas aller chez ton oncle qui est à Padan Aram, et là tu vas, n'est-ce pas, trouver quelqu'un. Il faut que tu partes pour un temps. » Et Jacob part, il obéit à ce qui lui est suggéré. Et dans ce lieu qui est appelé Bethel, vous savez que Dieu va lui apparaître. Dieu lui apparaît dans un songe. Et Dieu lui parle. Dieu lui fait une promesse de bénédiction. Hein, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Je te bénirai. Qu'avait fait Jacob pour le mériter? Et Dieu lui parle, mais par sa bénédiction. Et même quand il sera chez son oncle à Padan Aram, Dieu veillera à ce qu'il soit béni. Son bétail multipliera, les brebis tachées et marquetées seront en plus grand nombre que le bétail de ceux chez qui il se trouve. Dieu le bénit, Dieu nous parle par là, par sa bénédiction. Non pas que Dieu nous approuve, Jacob en tout, la bénédiction de Dieu pour nous-mêmes n'est pas nécessairement un gage de son approbation, mais du fait que Dieu nous aime et il nous parle. Il y a cette extraordinaire parole dans le livre de Michée. Vous voyez, lorsque Dieu parle à Israël et lui rappelle, lui remémore les bénédictions éprouvées, il lui dira « Dieu, fais cela afin que tu reconnaisses, les bontés de l'Éternel. Dieu t'a-t-il béni? Bien, reconnais-le, cherche-le. Tourne-toi vers lui pour recevoir sa bénédiction éternelle, celle qu'il veut t'accorder en Jésus-Christ. Dieu parle aussi à ceux qui sont fidèles par la bénédiction. On peut penser à Joseph, hein, ce garçon fidèle dans toutes ses voies, malgré son épreuve, malgré la séparation de sa famille, il a été vendu par ses frères. Il se trouve d'abord dans la maison de Potiphar, et puis, puisqu'il refuse, voyez, d'avoir commerce avec cette femme, il sera jeté en prison injustement. Et il nous a dit que dans la prison, Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Dieu l'a béni parce que, bien parce que ça, la main de Dieu était sur lui, on l'a vu. Le geôlier a vu que tout ce que Joseph faisait, bien, portait le sceau de Dieu, et alors il va l'élever. Il va lui donner même la surveillance des autres prisonniers, et il voyait que Dieu était avec lui. Bien, béni soit Dieu, hein, quand il nous bénit, lorsque nous nous efforçons de lui demeurer fidèles, il ne le fait pas à cause de notre fidélité, mais il le fait à cause de sa bonté. Et ça nous amène à expérimenter sa bonté. Vous voyez, surtout dans la difficulté, on a parfois bien besoin que Dieu nous parle. Et ça nous fait du bien. Et nous lui rendons grâce. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle bien par ses bienfaits. Je me souviens du témoignage de ce chrétien qui, confronté à une difficulté, s'est retrouvé là dans la pièce où il lisait la Bible. Et il ne pensait pas spécialement à cette difficulté. C'est en lisant la Bible que ça lui est. Cette pensée s'est imposée à son esprit. C'était une parole de Dieu qui lui disait, eh bien tu vois, cette difficulté elle est trop grande pour toi, tu ne peux pas en venir à bout, mais ne t'inquiète pas, je m'en charge. Vous voyez, c'était une conviction, ça venait de Dieu. Ce chrétien n'a pas eu de vision particulière, il n'a pas entendu de voix, mais cette conviction est née dans son cœur et s'y est installée, ça lui a apporté une grande paix. Et dans les semaines qui ont suivi, ce problème insurmontable qui était devant lui s'est résolu parce que Dieu avait posé sa main. Et ça l'a encouragé. Ça l'a encouragé. C'est bon quand Dieu nous parle, et il le fait parfois par ses bénédictions. Puis Dieu nous parle aussi, nous ne devons pas l'ignorer, nous parle aussi par la difficulté, par l'épreuve. Ça arrive que Dieu le fasse. Non pas qu'il prenne plaisir, vous voyez, à humilier les hommes. Hein, il est écrit que ce n'est pas volontiers que Dieu humilie les fils de l'homme. Mais parfois, il doit le faire. Et il doit le faire parce que sinon, le cœur de l'homme, notre cœur, bien peut-être a d'autres préoccupations, n'a pas laissé l'occasion à Dieu de lui parler comme il l'aurait aimé. Et Dieu, eh bien, utilise même la difficulté. C'est pourquoi l'Ecclésiaste dira, au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis. Bien sûr, Dieu permet parfois certaines épreuves, tout simplement parce que c'est le lot des croyants. Ils font parfois partie intégrante de la communion aux souffrances de Christ. Mais Dieu parfois permet la difficulté. Pourquoi ? Mais parce qu'il l'envoie pour nous parler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, on a parlé de Jacob, que Dieu a béni, à Bethel, à Paddan Aram. Mais à son retour de Paddan Aram, 20 années environ après son départ, voyez, il y avait quand même, malgré l'amour que Dieu portait à Jacob, il y avait ce problème, vous voyez, qui n'avait jamais été résolu. Ce problème avec Ésaü. Jacob l'avait trompé. Dieu l'avait béni, mais ce problème subsistait. Parfois, certaines situations de notre passé, lorsqu'elles ne sont pas résolues, elles doivent l'être, vous voyez. Et Dieu va se servir d'une difficulté pour parler à Jacob. Hein, son frère vient avec à son devant, il l'apprend, alors que Jacob est sur le chemin du retour, et il vient avec des intentions qui manifestement ne sont pas pacifiques. Et là, Jacob est saisi de frayeur. Il va partager les troupes, la famille, il va faire mine d'envoyer des présents, mais fond de son cœur, vous voyez, il y a quelque chose qui là l'interpelle, et c'est le moment de Peniel, hein, voilà, au bord du torrent de Jabbok, Jacob se retrouve seul, il lutte avec l'ange de Dieu, Dieu lutte avec lui, et il va le changer. Dieu va le vaincre, hein, et c'est pourquoi il sera dit, tu as lutté avec Dieu, tu as été vainqueur. C'est lorsqu'on laisse Dieu triompher de nous qu'il nous rend vainqueurs. Et Jacob va avoir besoin, voyez, de cette difficulté pour rentrer en lui-même. Et dans sa lutte avec Dieu, dans sa lutte avec l'ange, bien c'est là qu'il va être changé. Il va être frappé d'ailleurs. Hein. Il ne marchera plus jamais de la même manière ensuite. Dieu parle par la difficulté. On peut penser à Jonas aussi. Hein, cet homme qui, pour toutes sortes de raisons, n'a pas voulu accomplir la volonté de Dieu. Dieu l'a envoyé avec des instructions claires. Et Jonas choisit délibérément d'enfreindre la parole de Dieu. Il part à Tarsis. Et Dieu lui parle par la tempête. Dieu lui parle par la tempête. Même si ça va mettre du temps, vous voyez, la conscience de Jonas va être touchée. Il finit par demander à être précipité par-dessus bord. Dieu fait venir le poisson. Et là, dans le ventre de ce poisson, on devine le travail de conscience de Jacob. Voilà, il reconnaît qu'il a transgressé l'ordre de Dieu. Il reconnaît que délibérément, sciemment, il a choisi de faire le contraire de ce que Dieu lui avait indiqué. C'était un prophète, c'était un homme de Dieu, il sait parfaitement ce que Dieu voulait, et Dieu va permettre que l'épreuve se prolonge jusqu'à ce qu'il le reconnaisse. Et alors qu'il le reconnaît, bien Dieu le bénit, Dieu parle au poisson. Déjà dans le ventre du poisson, hein, on sent que la grâce de Dieu se manifeste, Jonas adresse cette remarquable prière à Dieu. Béni soit Dieu même pour l'épreuve, quand il s'en sert pour nous parler. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dira que bien nous avons part à la correction. Et il ne faut cette correction divine ni la mépriser, ni perdre courage. Vous voyez, s'il nous y soumet, c'est parce qu'il est devenu notre Père céleste, qu'il est le Fils, qu'un Père ne châtie pas. Nos pères, selon la chair, nous châtiaient pour un peu de jours, comme il est écrit. Mais Dieu, le Père des esprits, bien le fait pour que nous participions à sa sainteté. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux ajoute cette pensée. C'est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit, pour ceux qui sont ainsi exercés, un fruit paisible de justice. C'est-à-dire que lorsque nous tirons parti de cette correction de Dieu, ben, ça produit quelque chose de bon. Ça nous rend plus juste et on retrouve la paix. C'est le fruit paisible de justice. C'est bon, même quand Dieu nous parle de cette manière-là. Dieu peut nous parler même par la maladie. Vous voyez ? Alors, pour Job, c'était pas le cas, dans le sens où Dieu n'avait pas châtié Job pour une injustice qu'il aurait commise. Vous voyez ? Mais Dieu lui a parlé dans la maladie. Et Dieu nous parle parfois même par la maladie. On pense à ce roi, Asa, hein, qui a, après avoir bien commencé, accompli de grandes choses pour le royaume de Juda. Bien progressivement, on le sent s'éloigner, on le sent perdre pied dans sa foi, dans sa manière de vivre, dans sa manière d'être, et par conséquent de gouverner. Il nous a dit que vers la fin de sa vie, il va avoir les pieds malades. Et Dieu voulait lui parler. Vous voyez, par la maladie, c'est ce que Job nous dit, l'homme est repris sur sa couche. Et il est question parfois de maladies graves, puisque dans la description que nous fait Élihu dans ce livre de Job, que ça s'applique à Job ou pas, voyez, ce qu'il dit est vrai. Dieu reprend parfois l'homme sur sa couche, parfois même jusqu'en le portant aux portes de la mort. Voyez, la chair sur ses os dépérit, c'est écrit ça. Jusqu'à ce que ça porte l'homme dans sa détresse à chercher Dieu. Et on en reparlera dans quelques instants. Mais Dieu le fait, voyez, même ça, parce qu'il nous aime, pour nous sauver, pour porter l'homme à reconnaître, voyez, en confessant sa faiblesse et son péché, à recevoir le pardon là où seul il peut être trouvé, car le pardon se trouve auprès de Dieu afin qu'on le craigne. Et l'issue sera, pour celui qui a accepté d'entendre la voix de Dieu, le salut et la vie éternelle. Donc Dieu nous parle, hein, il le fait donc par les épreuves aussi, par la difficulté. Dieu parle par son Saint-Esprit. Il le fait par quelques, quelques dons spirituels. On pense à la manière dont Dieu s'est manifesté, par exemple, au milieu de cette assemblée de prophètes, il y avait des apôtres également, dans l'église d'Antioche, hein, alors qu'ils servaient Dieu dans leur ministère, qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit va dire, sans doute par un don spirituel qui va être apporté par l'un des hommes qui était assemblé là, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Il était question ici d'un appel, un appel missionnaire, et ça ne nous concerne pas forcément, mais Dieu parle encore aujourd'hui par les dons spirituels. Lorsque l'Église s'assemble, Dieu prend plaisir à parler de cette manière-là, voyez, à communiquer une pensée à l'un des croyants. Il est possible à tous les croyants de prophétiser. Hein, nous sommes même exhortés à rechercher les dons spirituels, particulièrement celui de prophétie. Pourquoi ? Bien pour édifier, c'est-à-dire communiquer une pensée qui, lorsque nous la recevons, un aspect de la vérité là, qui nous est appliqué par un don spirituel, nous amène à grandir, à être plus solide, plus fort. Voilà, par cette parole de Dieu, j'ai été édifié ou exhorté. Hein? C'est-à-dire que voilà, nous sommes poussés à nous fortifier pour accomplir notre service. On se retrouve fortifiés, on était vacillants, découragés. Puis Dieu, par une parole là, nous exhorte. On hésitait à prendre une décision. On savait quelle était la bonne décision, mais on hésitait à mettre les choses en œuvre. Et puis, voilà, cette parole de Dieu confirme, ça m'exhorte. Ou la prophétie console. On a du chagrin, on a de la peine. Et Dieu le sait. Et il est capable, par une simple parole apportée dans une réunion de prière, au cours d'un culte, vient d'apporter une consolation. Hein, avec cette parole et communiquer l'action qui apporte cette réalité. Dieu parle parfois aussi par des visions et des songes. Vous voyez, c'est ce qui est dit dans ce chapitre de Job. Hein. Une précision toutefois. S'il est vrai que Dieu parle par des visions et par des songes, nous ne devons pas rechercher hein, les visions et les songes pour eux-mêmes. On remarque que les hommes de la Bible, je pense à l'apôtre Paul, qui est un apôtre, un homme qui, dans le domaine de la vie de l'esprit, a connu des expériences glorieuses, eh bien, on s'aperçoit que Paul n'a jamais recherché les visions et les songes pour eux-mêmes. Mais il recherchait simplement à être fidèle à Dieu et à la mission que Dieu lui avait confiée. Et c'est dans le cadre de cette fidélité qu'il est arrivé au Seigneur de se manifester à Paul et de lui parler. Hein, notamment, on pense à cette vision qu'il va recevoir d'un Macédonien qui va permettre que la parole de Dieu puisse être annoncée dans la ville de Philippe et que l'église à laquelle l'épître aux Philippiens sera adressée bien des années plus tard voit le jour. On remarque au passage que, vous voyez, Dieu, en quelque sorte, par ce songe, va contrarier d'ailleurs les plans de Paul. Il avait formé le projet d'évangéliser l'Asie, et puis ils ont été empêchés par le Saint-Esprit d'y pénétrer. Ils se préparaient à entrer en Bithynie pour accomplir la vocation que Dieu leur avait adressée. Donc l'intention était bonne, il y avait cette fidélité authentique à ce que Dieu les avait appelés à faire. Et pourtant, bien dans ce songe que Paul va faire, eh bien, les plans qu'il forme, les plans louables, pour accomplir ce qui est agréable à Dieu, vont être contrecarrés, contrariés pour un temps, mais pour le meilleur. Voyez. Et lorsque Dieu nous parle, il se peut que sa parole contrecarre, contrarie nos projets et nos plans. Il le fait toujours pour notre bien et il le fait toujours pour le meilleur. Dans le chapitre de Job que nous avons lu en introduction, le chapitre 33, on remarque également que ces visions et ces songes dont il est question ont été accordés, sont accordés lorsque Dieu conteste avec un pécheur, n'est-ce pas, pour l'amener à prendre conscience de son besoin de salut, de son besoin de secours, de son besoin d'être pardonné, relevé et béni par Dieu. La femme de Pilate, elle-même incroyante, sera visitée par le Seigneur et en songe. sera averti sur la, quant à la justice du Seigneur Jésus-Christ. J'ai beaucoup souffert en songe, dira-t-elle, à cause de lui. Donc ne recherchons pas, voyez, ne recherchons pas les visions et les songes pour eux-mêmes, mais recherchons à connaître la volonté de Dieu, ce qui lui est agréable. Dieu nous parle encore par sa parole. C'est le moyen par excellence que Dieu emploie pour s'adresser à nous. La parole de Dieu, voyez, elle est parfaite. Elle est parfaite. Tes témoignages sont véritables, dira un homme. Ils rendent sage l'ignorant. Nous sommes tellement ignorants quant à ce que nous devons faire devant certaines situations qui se présentent là, inattendues. Oh, tenez, dans le domaine professionnel, parfois il y a des choses qui surgissent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parfois des situations dans le domaine familial nous surprennent. Des gens qu'on connaissait depuis des années, hein, par leur réaction, par la manière dont ils se comportent avec nous. Alors ça nous blesse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut réagir? C'est la parole de Dieu qui nous instruit. Toute l'écriture, écrira Paul, est inspirée de Dieu, elle est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre. Elle communique une véritable conviction. Non, non, ce n'est pas seulement une opinion ou un avis, mais une conviction. Lorsque la parole de Dieu s'adresse à nous, que nous la recevons pour ce qu'elle est, insufflée, hors de Dieu, elle nous apporte une parfaite conviction. Nous savons ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter. Elle est utile pour nous corriger lorsque nos pensées, nos sentiments s'éloignent de ce que nous savons être agréable à Dieu, de ce que l'Écriture nous enseigne. Bien, elle nous ramène dans la bonne voie. Elle nous reprend parfois, nous humilie, mais Dieu fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. La parole qui révèle la plaie de notre cœur est aussi la parole qui révèle Jésus-Christ, notre grand souverain sacrificateur. Et lorsque nous confessons nos péchés, lorsque nous sommes parfois humiliés de découvrir ce qu'il y a encore en nous, bien la parole de Dieu nous révèle Christ, nous amène à reconnaître, voyez, là où nous sommes fourvoyés, où nous sommes égarés, là où dans notre vie quelque chose n'a pas été conforme à la parole de Dieu. Voilà, Dieu nous parle, et si nous nous laissons faire par sa parole, bien nous comprenons aussi que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner, et voyez, pour nous purifier de toute iniquité. Ces choses ont été écrites pour que vous ne péchiez pas. C'est la grâce de Dieu, c'est l'enseignement de la parole de Dieu qui nous conduit, voyez, à relever la tête. Mais Dieu nous parle toujours par sa parole. Parole lue, méditée, enseignée, et appliquée à notre cœur, bien sûr, par le Saint-Esprit. Dieu nous parle par sa parole. Et il faut, vous voyez, toujours demeurer, hein, dans sa parole. De ne pas nous écarter de ce qu'elle enseigne, de ce qui est écrit. C'est notre sécurité, c'est notre assurance. Enfin, Dieu nous parle par Jésus-Christ. Connaissons bien ce verset de l'Épître aux Hébreux où il est écrit qu'après avoir à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé au Père, c'est-à-dire les Juifs, par les prophètes, Dieu en ces derniers temps nous a parlé et il nous parle par le Fils. Vous voyez, il est la parole faite chair. Et maintenant il nous parle du haut des cieux. Et c'est par Jésus-Christ que Dieu nous parle. Or, dans ce chapitre de Job, chapitre 33, bien, on s'aperçoit que, finalement, dans l'expérience qui est décrite, c'est l'œuvre de Christ, vous voyez, c'est déjà l'Évangile. Il est question d'un homme dont l'âme s'approche de la fosse, sa vie des messagers de la mort, parce qu'il a vécu sans Dieu, contrairement à la volonté de Dieu. Et voilà que Dieu lui parle, dans ce cas précis, nous l'avons dit, par des visions et des songes qui l'épouvantent. Il lui parle par la maladie. Et il est là sur sa couche. Sa vie s'approche de la mort. Mais il nous est parlé d'un ange intercesseur. Un d'entre les mille. Alors quel est cet ange, hein? Certains veulent y voir l'ange de l'Éternel. C'est pas impossible. Jésus s'est manifesté comme l'ange de l'Éternel à plusieurs reprises, avant même son incarnation. Mais ce qui est certain, voyez, c'est que cet ange qui va intercéder va entendre Dieu lui dire « Délivre-le pour qu'il ne descende pas dans la fosse, car j'ai trouvé une rançon. » Béni soit Dieu pour Jésus-Christ, qui est notre rançon. Il a payé le prix. Il a payé le prix de nos péchés. Il est le Rédempteur. En lui, écrira Paul, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de nos péchés, selon la richesse de sa grâce. Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Voilà quelle parole pour un homme qui est aux portes de la mort. Vient de Jésus-Christ, il nous a dit qu'il est vivant pour sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et par Jésus-Christ, Dieu nous parle. Il nous parle ce matin de son salut, de l'espérance qui nous est réservée dans les cieux. Il te parle, c'est toi qui ne connais pas la paix, l'assurance du pardon, c'est pour toi. Dieu te parle par Jésus-Christ. Pour terminer, il faut quand même ajouter ceci. Au verset 14, Élihu disait à Job, et le Saint-Esprit nous dit que si Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, eh bien parfois l'homme n'y prend pas garde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle bien des manières et l'on n'y prend point garde. Malheureusement, les exemples sont nombreux. On voit que à la création, bien des gens sont tout à fait insensibles dans l'Épître aux Romains, quand il est question de cette puissance de Dieu, cette puissance éternelle qui se voit comme à l'œil dans les ouvrages. On voit que bien des hommes n'y prennent aucune garde. La bénédiction de Dieu reste parfois inaperçue. C'est à Israël que Dieu dira « Ils n'ont pas vu que je les guérissais ». Dieu parle par des épreuves et parfois, bien des gens ne le voient pas. Vous voyez, méprise la correction de Dieu. Voilà, je passe par l'épreuve, bah tant pis. Tenez le roi Asa, il a été malade des pieds, il nous a dit qu'il ne chercha pas Dieu, mais il consulta les médecins. Ce que Dieu lui reprochait n'était pas de consulter les médecins, mais de ne pas comprendre que derrière cette maladie, c'est Dieu qui parlait à Asa, parce qu'il voulait le bénir, il voulait l'amener à revenir. Les dons spirituels, Paul dira, ne méprisez pas les prophéties, parce que par une prophétie, Dieu peut te parler. Et puis, la parole, voyez, la parole. Il nous est dit du peuple d'Israël que la parole qui leur a été annoncée n'a pas été suivie d'effet parce qu'elle n'a pas trouvé de la foi chez ceux qui l'ont entendue. Et encore, bien sûr, il nous convient de prêter attention à travers toutes ces choses à la voix de Jésus-Christ. Il nous est dit que voilà, gardez-vous de mépriser, gardez-vous de vous détourner de celui qui parle du haut des cieux. Retenons que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous désirons y prendre garde. Désirons y prendre garde pour nous en trouver bien. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, écrira l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître, bien, n'endurcissez pas votre cœur, recevez cette parole. Dieu vous adresse la parole, parce qu'il forme pour vous des projets de paix. Jésus dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, trouverez du repos, recevez mes instructions, prenez mon joug sur vous, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous permette dans l'année qui s'ouvre, et chaque jour de notre vie, de prendre garde à la parole de Dieu. S'il nous parle, bien c'est qu'il a quelque chose à nous dire, il nous le dit pour notre bien. Donc, occupons-nous quelques instants, si vous le voulez,